Seigneur, merci pour ta grâce et merci pour la fidélité que tu nous accordes encore, Seigneur. Nous bénissons ton nom et nous prions pour que tu nous éclaires et que tu nous parles, Seigneur, par ta parole, Seigneur, qui est la vérité, afin que nous puissions, Seigneur, te servir avec efficacité et, Seigneur, que nous puissions te ressembler, Seigneur, mais aussi afin que nous puissions résister contre toutes les ruses du diable, Seigneur. Que ton nom soit béni au siècle des siècles, au nom de Jésus. Amen. Nous prenons nos Bibles dans le livre de Jérémie, au chapitre 35. Jérémie, chapitre 35. Jérémie, chapitre 35, à partir du verset 1er. La parole fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, au temps de Joachim, fils de Josias, roi de Juda, en ces mots. Va à la maison des Récabites et parle-leur. Tu les conduiras à la maison de l'Éternel, dans une des chambres, et tu leur offriras du vin à boire. Je prie Jazania, fils de Jérémie, fils d'Abinézia, ses frères, tous ses fils et toute la maison des Récabites, et je les conduisis à la maison de l'Éternel, dans la chambre des fils d'Anon, fils de Jigdalia, homme de Dieu, près de la chambre des chefs, au-dessus de la chambre de Masséja, fils de Shalom, garde du seuil. Je mis devant les fils de la maison des Récabites des coupes pleines de vin et de calices, et je leur dis, buvez du vin. Mais ils répondirent, nous ne buvons pas de vin, car Jonadab, fils de Récab, notre père, nous a donné cet ordre. Vous ne boirez jamais de vin, ni vous, ni vos fils, et vous ne bâtirez point de maison. Vous ne sèmerez aucune semence, vous ne planterez point de vigne, et vous n'en posséderez point. Mais vous habiterez sous des tentes toute votre vie, afin que vous viviez longtemps dans le pays où vous êtes étrangers. Nous obéissons à tout ce que nous a prescrit Jonadab, fils de Récab, notre père. Nous ne buvons pas de vin pendant toute notre vie, nous, nos femmes, nos fils et nos filles. Nous ne bâtissons point de maison pour nos demeures et nous ne possédons point de vignes, ni champs, ni terres ensemencées. Nous habitons sous des tentes et nous suivons et pratiquons tout ce que nous a prescrit Jonadab, notre père. Verset 12. Alors la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Va, dis aux hommes de Juda et aux habitants de Jérusalem, ne recevez-vous pas cette instruction pour obéir à mes ordres, dit l'Éternel. On a observé les paroles de Jonadab, fils de Récab, qui a ordonné à ses fils de ne pas boire du vin, et ils n'en ont pas bu jusqu'à ce jour, parce qu'ils ont obéi à l'ordre de leur père. Et moi, je vous ai parlé dès le matin, et vous ne m'avez pas écouté. Voilà la parole du Seigneur. La Bible dit que le Seigneur envoie le prophète Jérémie. Il dit, va à la maison de l'Éternel, la maison de Dieu, et là, prends du vin et rassemble les enfants de Récab. Donc, Récab, c'était le grand-père de ce peuple. Ce peuple, c'était les Récabites, c'était le peuple qui était étranger, mais qui ont été assimilés à Israël. Donc, ils étaient considérés comme impurs. Mais, par leur façon de vivre, ils vivaient avec les enfants d'Israël et ils s'abstenaient de certaines choses, et notamment le vin. Pourquoi ? Parce que lorsqu'ils buvaient du vin, ils se retrouvaient à adorer les faux dieux, les dieux Baal. Et leur grand-père Récab donne l'ordre. Il dit, toute votre vie, ni vous, ni vos enfants, ni les filles, ni vos fils, personne ne va toucher au vin. Et voilà que Jérémie, qui n'est pas n'importe qui, Dieu envoie Jérémie, il dit, rassemble-les, mets-les dans une pièce, donne-leur du vin à boire. Je pense que Dieu, connaissant tout, il connaissait la réponse de ces gens-là. Et Jérémie arrive, il rassemble ces gens et il leur dit, prenez du vin, en plus dans la maison de l'Éternel. Ils disent, nous, nos fils, nos filles, nous ne boirons jamais. Nous avons reçu un ordre. L'héritage que nous avons reçu de notre grand-père, c'est de ne pas boire le vin, de ne même pas construire de tente et d'habiter dans le pays où nous sommes étrangers parce qu'ils étaient avec Israël. Ils vivaient avec le peuple d'Israël. Il dit, nous allons rester purs et nous allons vivre dans ce pays que nos pères nous ont donné autrefois. Et le thème de ce soir, c'est une réflexion. Nous amener à réfléchir comme ces hommes ont été responsables. Imaginons-nous Jérémie. Jérémie, ce n'était pas n'importe quel prophète. Lorsqu'on lit déjà Jérémie 1, lorsque Dieu parle de Jérémie, il dit je t'ai établi avec une autorité pour construire, pour détruire, pour bâtir. Et voilà que Jérémie, qui n'est pas n'importe qui, va voir ce peuple pour leur dire, prenez du vin. En fait, en réalité, Dieu voulait montrer à Jérémie, et c'est ce qu'on a lu au verset 12, Dieu dit, mais regarde ce peuple qui reste fidèle malgré tout, malgré l'ordre que toi tu donnes Jérémie, qui n'est pas n'importe qui, ce peuple refuse, puisqu'ils veulent rester fidèles aux paroles qu'ils ont reçues de leur père. Et il dit, mais pourquoi Israël ne pourrait pas prendre exemple sur ce peuple, alors qu'eux, ils ont reçu un ordre des hommes qui sont morts. Et moi, l'Éternel, comment ça se fait qu'Israël, qui a vu les prodiges, qui a vu les miracles, qui a vu tout ce que j'ai fait, comment ça se fait qu'Israël refuse d'écouter mes ordonnances? Comment ça se fait qu'Israël va vers les faux dieux? Comme on a dit, l'ordre de ne pas boire le vin, c'était pour éviter d'être léger, parce qu'on connaît tous, c'est écrit dans la parole, que le vin rend joyeux. Et bien, c'est une joie qui peut nous pousser à faire n'importe quoi de bêtises. Et voilà pourquoi ils se sont abstenus de cela. Et Dieu dit, avec le cœur touché, il dit, mais regarde l'exemple des Récabites qui restent fidèles à l'ordre que leur redonnait leur père. Mais Israël n'est pas capable d'en faire autant. Le thème de notre partage aujourd'hui, c'est veillons sur la parole de Dieu, veillons sur notre salut, ou encore responsables de notre salut. Le salut, c'est un cadeau qui vient de Dieu, et nous allons lire ça. C'est Dieu qui nous a donné ce cadeau-là. Mais maintenant, ce cadeau-là, nous avons la responsabilité de jouir de ce cadeau tous les jours, mais aussi de veiller dessus. Parce que comme on a vu le mardi, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu que le diable a un seul objectif. Son objectif, ce n'est pas l'argent. Le diable, son objectif, ce ne sont pas les voitures que nous avons. Le diable, son objectif, ce ne sont pas les titres. Puisqu'il donne toutes ces choses-là aux hommes, l'homme le plus riche du monde aujourd'hui n'est pas chrétien. Je dirais même les 100 personnes qui sont classées sur le journal Forbes qui classifie les hommes les plus riches, peut-être les 100 ou même les 200. Il n'y a pas un chrétien dans ces hommes-là. Le diable n'a que faire de tout ça. Ce que le diable cherche, c'est à atteindre la foi. Et comment atteindre la foi? Par des fausses paroles, par la séduction, par la tromperie. Et nous avons vu dans l'étude biblique les armes spirituelles, le diable va utiliser des agents que sont, ça peut être l'argent, ça peut être les humains, ça peut être les esprits qu'on appelle des démons. Le diable va utiliser tous ces agents-là, mais l'objectif, c'est de nous amener à sortir de la foi. Or, la Bible dit que la foi vient de quoi? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En quelque sorte, le diable va venir avec une fausse parole qui peut sembler être la parole de Dieu, mais qui n'en est pas. Et là, regardons l'exemple des Récabites. Jérémie, qui n'est pas n'importe qui, vient parler. Ils disent à Jérémie, ils tiennent tête à Jérémie. Ils disent non. Nous, nous avons reçu l'instruction. Jamais le vin ne va entrer dans notre bouche. Ni nous, ni nos pères. Nous n'allons pas construire de tente. Nous n'allons pas travailler la terre. Nous allons rester tels que nous sommes. Responsables de notre salut. Veillons sur notre salut. Beaucoup aujourd'hui se sont fait avoir Pourquoi? Parce qu'ils ont manqué de vigilance, comme les Récabites. Ils n'ont pas été pardonnés comme les Récabites. Ils ont manqué de vigilance parce qu'il y a eu la convoitise, parce qu'il y a eu une soif de vouloir quelque chose. Et le diable sait cela. Il a étudié l'homme, il connaît l'homme et il va proposer à l'homme des choses qui intéressent tout homme. Il va proposer l'argent, il va proposer les femmes, il va proposer la gloire. Il va proposer la renommée, il va proposer tout ce qui glorifie l'homme. Et le but, c'est de le sortir. Et lorsque je lis toujours ce texte, je me dis, Seigneur, aide-moi à avoir le cœur des Récabites. Et on voit la réaction de Dieu, il est touché, il se dit, mais Israël, pourquoi Israël ne peut pas suivre l'exemple de ces hommes? Si toi, Jérémie, tu es le prophète de l'Éternel, tu parles. Mais ils refusent de t'écouter, puisqu'ils ont reçu des ordres. Il dit, mais pourquoi Israël ne fait pas cela? Nous lisons Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2. À partir du verset 1er, pour comprendre un petit peu jusqu'au verset 8. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air et de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. Entre parenthèses, ici chez moi, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Verset 6. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, et c'est le don de Dieu. Nous lisons aussi, nous passons la page juste à côté, Éphésiens 1, verset 15, jusqu'au verset 18. L'apôtre Paul dit, « C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre charité pour tous les saints, je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire, de son héritage qu'il réserve aux saints, et qu'elle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. » Voilà ce que l'apôtre Paul explique. Il dit dans Éphésiens, au chapitre 1er, verset, à partir du verset 15 jusqu'au verset 19, il dit que Dieu ouvre les yeux de nos cœurs afin que nous puissions voir l'héritage, la richesse de l'héritage que Dieu a pour nous les saints. Et cet héritage, c'est quoi? C'est de devenir enfant de Dieu, d'avoir l'Esprit de Dieu, d'avoir part aux choses célestes, d'avoir le salut, la vie éternelle. Et au chapitre 2, il explique maintenant, il dit, « Autrefois, nous marchions selon le train-train quotidien de ce monde. Nous étions les fils de la rébellion. Nous étions loin de Dieu. Mais aujourd'hui, Dieu, par sa grâce, au verset 4, s'est manifesté à nous, s'est révélé à nous. Et il nous a sauvés. » Et ensuite, il dit que nous sommes sauvés par grâce. Et il rajoute que cela ne vient pas de nous, c'est un don de Dieu. Et un homme sensé, lorsqu'il reçoit un don, lorsqu'il reçoit un cadeau, eh bien, il en prend soin. Il en prend soin. On a pris l'exemple des Récabites qui, pour des ordonnances qu'ils ont reçues sur la terre, ils sont restés fidèles. Ils ont pris soin de l'ordre qu'ont donné leur père. Ils ont dit à Jérémie, nous refusons de désobéir à l'ordre que nous ont donné nos pères. Alors, pour des promesses charnelles sur la terre, ces hommes ont été fidèles jusqu'à tenir tête à Jérémie. Alors nous, l'héritage que nous avons, il est bien plus grand. Et Dieu dit à Jérémie, il dit, regarde ce peuple. Mon peuple n'est pas comme les Récabites qui restent fidèles. Alors que moi, ce que je promets, ce que je donne, c'est quelque chose d'éternel. C'est cela. Et l'apôtre Paul explique maintenant, c'est quoi le salut? Il dit, c'est le fait d'avoir une nouvelle vie. Comme on nous explique souvent, le salut, ce n'est pas le ticket pour aller au ciel. Il explique, il dit, nous étions comme les autres. Nous marchions comme les païens autrefois, dans le mensonge, dans le vol, dans la calomnie, dans l'hypocrisie, dans la peur du lendemain. Il est aujourd'hui, le Seigneur s'est révélé à nous et il nous a fait un cadeau. Et ce cadeau, c'est la vie éternelle. La Bible dit dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui espère avoir la vie éternelle. Non. Et la vie éternelle. Donc c'est quand tu crois, au moment où tu crois en Jésus, tu as la vie éternelle. Tu as le Saint-Esprit maintenant qui agit en toi. Tu vis maintenant sur la terre, mais les yeux fixés sur le ciel. Il y a des réalités sur la terre qui sont difficiles, mais avec la foi, nous nous attachons aux promesses de Dieu. Nous attachons à l'espérance que le Seigneur a pour nous. On sait que même s'il arrivait que les choses finissent sur la terre, nous avons une assurance de vivre avec notre Seigneur toute la vie éternellement. C'est ça, l'héritage des chrétiens. Et le thème d'aujourd'hui, c'est prenons soin de l'héritage, du salut que Dieu nous a donné. C'est notre responsabilité. Comme les Récabites ont tenu tête à Jérémie, notre responsabilité aussi, c'est de veiller sur le salut que Dieu nous a donné. De veiller sur cela. Et comme on a dit dans l'introduction, le diable va chercher à attaquer ce salut par des fausses paroles, par des fausses prophéties. Et son but en réalité, c'est d'atteindre la foi. Son but en réalité, c'est d'atteindre la foi. Et une fois que la foi est atteinte, alors là, il peut nous sortir du plan de Dieu. Le Seigneur Jésus dit, ceux qui sont dans ma main, personne ne peut me les ravir. C'est la part de Dieu. Dieu s'engage lorsqu'il nous donne le salut à le protéger, à le garder, à nous conduire. Lorsque nous sortons du salut, il nous reprend. Pardon, lorsque nous péchons, il nous reprend par le Saint-Esprit. On demande pardon, on continue la marche. Mais si nous-mêmes, nous décidons de sortir de cette voie-là par la séduction du diable, malheureusement, on s'expose même. Il y a des gens aujourd'hui qui, lorsqu'on parle avec eux qui se disaient chrétiens autrefois, tu parles avec la personne, tu vois que la personne est même en colère contre Dieu. C'est comme si la personne n'a jamais entendu parler de Dieu. Et ce qui a inspiré l'exhortation d'aujourd'hui, et notre premier point, c'est mettre la parole. Comment rester? Comment maintenir notre salut? Comment être responsable de notre salut? C'est garder la parole de Dieu. Mettre la parole de Dieu au-dessus de tout. Sonder tout au travers de la parole de Dieu. Que dit la parole? Et ce qui m'a inspiré, c'est que hier, lorsque je rentre à la maison, on me dit, il y a une personne qui a appelé à la maison pour dire qu'il y a un bishop, j'ai oublié son nom, qui vient d'Afrique, qui est venu en France pour une conférence, je crois à Bobigny ou je ne sais plus où, et qui aurait reçu des choses pour moi. En plus, ils disent bien, monsieur Nzembele Jean-Luc, je dis, ah, comment la personne sait avec exactitude d'abord mon nom, mon prénom, comment il sait que je suis chrétien, comment? Je me suis dit, ah, là, c'est vraiment une bonne loterie, quoi. Et la personne appelle une fois. La personne rappelle, je ne suis pas revenu. La personne rappelle pour dire, mais pourquoi vous n'avez pas appelé le pasteur? Et donc, ils expliquent à Mylène en disant, cette personne a reçu des grandes choses pour moi. Je dis, là, il est vraiment mal tombé. Ils ont appelé 3 ou 4 fois. Je crois la cinquième fois, je prends le téléphone, j'entends du monde parler autour là. Je dis, mais je ne vous entends même pas, madame, vous parlez, je ne vous entends pas. Je me suis dit, là, ça doit être un cybercafé ou les gens qui démarchent là. Je dis, mais je ne vous entends pas, il y a du bruit. Elle dit, oui, excusez-moi. Je dis, mais coupez le bruit qu'il y a autour de vous. Elle ne peut pas couper parce qu'elle est dans un cybercafé. Elle me dit, oui, je vous appelle parce que de la part d'un tel qui a reçu de grandes choses. Je dis, mais cette personne, je ne la connais même pas. Je me dis, est-ce que, comme il vient d'Afrique, est-ce que peut-être qu'il a eu contact avec ma mère je me dis, non, je me suis dit, non, là, c'est trop. Elle me dit, non, il faut appeler. Je dis, mais madame, le numéro, là, vous avez eu ça où? Elle dit, non, mais, je dis, dites à cet homme-là, si lui, il a reçu des choses de la part de Dieu pour moi, mais qu'il m'appelle, c'est lui qui a reçu, moi, j'ai rien reçu. Non, il ne peut pas t'appeler parce que son téléphone est saturé. Je dis, vraiment, l'escroquerie jusqu'au bout. Son téléphone est saturé, il est à Paris, il faut que tu l'appelles en urgence. Et je dis, non. Alors, des simples choses comme ça, c'est simple. On n'a pas besoin de connaître les révélations d'Apocalypse pour comprendre que ce sont des bêtises. On n'a pas besoin de révélations. C'est comme des gens qui envoient des messages par email en disant, prends ces paroles, distribue-les à 10 personnes. Vite, sinon si tu dis, donc on te dit, tu as une belle parole, une bonne promesse, mais en même temps on te menace, on te dit, si tu ne distribues pas à 10 personnes, quelque chose, vraiment la bêtise. Mais malheureusement, beaucoup tombent dans ce piège. Beaucoup tombent dans ce piège. J'ai dit à cette femme, j'ai dit, dites à ce monsieur-là, s'il a reçu de grandes choses pour moi, que lui m'appelle, moi aussi je veux lui dire ce que Dieu a à lui dire, il va se repentir. Ce sont des bêtises. Mais en même temps, on se dit, mais... Et comment il a fait pour trouver le numéro, pour appeler? Et ça ne s'est pas fini là, parce que le soir, maintenant, ce n'est plus la fille qui a appelé, c'est un autre monsieur qui a appelé pour dire, mais votre mari n'a pas appelé. Je dis, vraiment jusqu'au bout, quoi. Voilà le diable. Comment il se trahit lui-même. Mais vous n'avez pas appelé. Je dis, j'attends que lui m'appelle. Moi, je veux lui parler aussi de la parole de Dieu. Voilà. C'est ça. Mais malheureusement, beaucoup se font avoir comme ça. Je commence à imaginer la suite. Tu appelles, il te dit, bon, je suis là à Paris, il faut qu'on se voit. Mais la finalité, c'est quoi? C'est l'argent. C'est l'argent. Mais en tout cas, il est mal tombé ce jour-là. Aujourd'hui, je suis resté à la maison parce que toute la journée, il n'y a pas eu un appel. Je dis vraiment, voilà. Je dis à cette femme, si c'est de Dieu, s'il est de Dieu, hein, Dieu va s'imposer. Même si lui ne m'appelle pas, Dieu va donner des songes. Voilà. Moi, je n'ai pas ce temps-là d'appeler. En plus, toujours sur le fixe, généralement sur le fixe, ce sont les brouteurs, les personnes qui travaillent dans des cyber, là, qui appellent les gens pour escroquer les gens ou pour proposer des contrats. Mais dans ce cas, qui m'appellent sur mon portable. Et c'est ça qui m'a inspiré. Je dis, effectivement, voilà. En tant que chrétien, nous avons une responsabilité par rapport au salut que Dieu nous a donné. Et comment exercer cette responsabilité? C'est premièrement, utiliser la parole de Dieu. Que dit la Bible? Et avec cet exemple-là, rien que les petits éléments-là, le téléphone de monsieur est saturé, il ne peut pas appeler. Voilà quel mensonge. Je dis, mais vraiment, s'il est à Paris, lui, qui est bishop, il ne peut pas emprunter le téléphone de quelqu'un pour appeler. Deuxième super chérie, on te dit, il a des très grandes choses à te dire. Mais quelles grandes choses? La Bible est là. Il y a toutes les promesses de Dieu. Jésus-Christ est vivant, il est ressuscité. C'est ça les grandes choses. Quelles grandes choses il va te dire encore? Toutes les promesses sont là. Et voilà comment le diable agit. Il vient, il te sort une parole. Et Dieu lui-même prévient son peuple. Nous lisons Deutéronome au chapitre 13. Deutéronome 13. À partir du verset 1er jusqu'au verset 5. Deutéronome 13, verset 1er jusqu'au verset 5. Il est écrit, « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qui est accomplissement du signe ou du prodige, dont il t'a parlé en disant, « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les, tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car l'Éternel, votre Dieu, Car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. Vous irez après l'Éternel votre Dieu et vous le craindrez. Vous observerez ses commandements, vous obéirez à sa voix, vous le servirez et vous vous attacherez à lui. Ce prophète ou ce songeur sera puni de mort, car il a parlé de la révolte contre l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir du pays d'Égypte et vous a délivré de la maison de servitude. Et il a voulu te détourner de la voie dans laquelle l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné de marcher. Tu ôteras ainsi le mal du milieu de toi. Amen. Voilà ce que le Seigneur dit. Il dit, un prophète peut venir. Il va parler, il va dire des choses. Et ces choses vont même s'accomplir. Et Dieu appuie en disant, c'est moi-même l'Éternel qui suis derrière ça pour te mettre à l'épreuve. C'est grave ce que Dieu dit là. Il dit, il va venir, il va dire des choses. Du bon et du mauvais, mais en même temps, les choses vont s'accomplir. Mais quand ça se passe comme ça, qu'est-ce qui se passe? En tant qu'humain, mais on est dans le doute, dans le trouble. S'il y a sur 5 prophéties, 3 bonnes, 2 fausses, on est dans le trouble, on se dit, ah, mais en même temps, ce qu'il m'a dit était vrai. La parole de connaissance qu'il m'a dit, mais c'était pas faux. Comment il a su ça? Mais, ah voilà. Et Dieu dit, moi-même, je permets ça pour te mettre à l'épreuve. Avec quel objectif? Pour voir si nous nous attachons à la parole de Dieu. C'est ça. Pour voir si nous nous attachons à la parole de Dieu. Et ça, c'est notre responsabilité à nous. Ce n'est pas la responsabilité du pasteur. Ce n'est pas la responsabilité du frère. C'est chacun qui a sa responsabilité. Voilà pourquoi on a pris l'exemple des Récabites. Devant un grand prophète comme Jérémie, ils ont dit non. Nous, nous obéissons à la parole que nos pères nous ont donnée. Nous n'allons pas boire de vin. Nous allons nous abstenir de cela. Même si nous n'avons pas compris pourquoi l'ordre a été donné, mais nous, nous préférons respecter l'ordre qui a été donné. Et c'est ça. Et Dieu dit, un prophète va s'élever, il va parler, il va te dire des choses. Et ces choses vont même s'accomplir. Mais ensuite, tu te dis, viens, on va. Donne-moi de l'argent. Voilà, regarde ma situation. Il commence à te parler de lui, te sortir de la parole de Dieu. Et souvent avec le cœur, on se dit oui, bon. Peut-être qu'il s'est trompé. Peut-être on commence à donner des excuses. Dieu est radical. Il dit une telle personne sera mise à mort. Dieu est radical. Responsable de notre salut. C'est Dieu qui nous donne le salut. Et ce salut, nous l'avons obtenu par la foi. La foi en quoi? En la parole de Dieu. Et comme on a dit, comme on a vu mardi, le diable va s'employer à attaquer la parole de Dieu. Va vouloir changer les choses, va mettre la confusion, parce qu'il travaille dans la confusion. Et c'est vraiment ça l'exemple d'hier. Je me suis dit, mais j'ai dit à cette personne-là, au téléphone, à cette femme, j'ai dit, mais les choses de Dieu, pourquoi on force? Les choses de Dieu, on ne force pas. On ne force pas. Soyons logiques. Si c'est lui qui a reçu, c'est lui qui doit appeler. Il a reçu ça de Dieu. Donc Dieu est son chef. Donc Dieu, son chef, lui dit, je reçois des choses pour un tel. Maintenant, toi aussi, tu es un petit chef, tu dis, non, moi je n'appelle pas, c'est l'autre qui va m'appeler. Mais quelle bêtise. Rien qu'avec le bon sens, on se dit, non, là, il y a un problème. Comme cette maxime, cette phrase en français qui dit, là, quand c'est flou, il y a un loup. Les choses sont floues, il y a des mensonges. Le téléphone du type est saturé, le cil, que des mensonges. Malheureusement, je pense que s'ils font ces choses-là, c'est peut-être parce que chez certains, ça marche. Il y en a d'autres sur Internet, c'est je suis vieux, je suis malade, j'ai un héritage à donner, je ne peux pas. Mais combien ne se sont pas fait prendre dans ces choses-là? Parfois même, il y en a qui se font prendre, ils n'en parlent pas parce que ça fait honte. On va se moquer de toi. Un héritage d'un million, mais pour avoir les 1 million, envoie 100 dollars. Mais soyons logiques. Soyons logiques. L'héritage d'un million, on te demande, mais pour avoir ça, il faut que tu envoies 100 euros. Il faut que tu donnes ton numéro même de compte. ton numéro de carte. Et l'homme se dit, ah là c'est le bon plan, comme ça j'en parle à personne, ce sera la surprise, le jackpot. Malheureusement, c'est ça. Le Seigneur nous dit aujourd'hui, soyons responsables. Il nous a donné le salut. Il nous a donné le Saint-Esprit. Il est écrit dans Romains 14, 12 que devant Dieu, chacun va plaider, chacun va se présenter devant Dieu personnellement. Il n'y aura pas un autre qui viendra pour dire non, non. Le Seigneur a dit, il nous a tout donné. Dieu a tant aimé les hommes qu'il a donné son Fils. Il a donné le meilleur. Il a tout donné. Il a tout donné. Nous avons le salut. C'est ce que Dieu avait de meilleur à donner. Il est écrit dans Jean 13 que Jésus, sentant son heure arriver, a mis le comble à son amour, le maximum, pour s'offrir à la croix. Alors le salut que nous avons, ne prenons pas des risques. Comment ne pas prendre des risques? C'est rester sur ce que dit la parole de Dieu. Nous allons voir des exemples de personnes qui ont respecté cet ordre. Nous lisons Actes au chapitre 17. Actes 17. Actes 17. Acte 17, 10 à 11. Aussitôt, les frères partirent de nuit, Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Voilà ce que nous dit la parole de Dieu, que les Juifs de Bérée avaient des sentiments plus nobles que les autres. Pourquoi il y a cette comparaison-là? Peut-être parce que les autres se contentaient de ce qui était dit. Ils se sont dit, bon, c'est Paul qui parle. Effectivement, Paul, nous connaissons que c'est un vrai serviteur de Dieu. Mais la différence, pourquoi on dit plus noble? Parce que c'était des gens qui étaient responsables. Ils ont compris que l'histoire du salut, l'histoire de la parole de Dieu, il n'y a pas de sentiment. Il n'y a pas d'affinité, c'est parce que c'est un tel qui parle. Non! Ils ont pris les Écritures pour vérifier. C'était quoi leur but? Voir est-ce qu'il y a une cohérence, une cohésion entre ce que Paul dit et ce qui est écrit. Voilà, c'était ça leur objectif. C'était ça leur objectif. Ils ont compris que le salut, c'est quelque chose de très important. On ne blague pas avec le salut. La parole de Dieu, ils ont compris qu'on ne peut pas blaguer avec la parole de Dieu. Et lorsque Paul prêchait, ces hommes vérifiaient dans les Écritures. Il vérifiait. Pourtant, c'était Paul. Mais ces hommes vérifiaient. Et si on parle d'eux comme ça, c'est que Dieu veut que nous puissions avoir aussi la même attitude. Il y a des gens qui citent des versets parce qu'ils ont entendu. Ils citent des versets parce qu'ils ont entendu. Mais ils n'ont pas lu ces versets eux-mêmes. Ils n'ont pas médité ces versets eux-mêmes. Malheureusement. Ou il y en a d'autres, c'est toujours les mêmes versets qu'on lit. Ésaïe 54, 17, c'est toujours tout ce qu'il y a des promesses. Or, la vie chrétienne est faite de beaucoup de choses. Parfois, il y a des épreuves. Parfois, il y a des situations difficiles. Et c'est en lisant la parole de Dieu que le Seigneur nous parle. Et le Seigneur dit lui-même, quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera. Et il va vous rappeler même les choses que je vous ai enseignées, que je vous ai dites. Et ces choses, elles sont écrites dans la Bible. C'est cela. Et on dit que les Juifs de Bérée, eh bien, ils vérifiaient. C'est ce que Paul dit. Est-ce que ça marche avec les Écritures? Est-ce que ça concorde? Il y a une concordance? Est-ce qu'il y a une cohésion? Est-ce que c'est correct? C'est cela. Et malheureusement, beaucoup aujourd'hui, avec la prolifération de tout ce qui est Internet aujourd'hui, il y a tout sur mesure. Tu peux avoir tes prédications, tu peux avoir tes thèmes que tu peux même présélectionner à l'avance. Il y a à boire et à manger. Il y a tout. Et malheureusement, beaucoup finissent par se faire avoir. Ils ont la parole de Dieu, mais on préfère autre chose. On se rappelle de l'histoire dans 1 Roi, au chapitre 13. Il est écrit que Dieu envoie un homme de Dieu, un prophète. Alors que Jéroboam s'apprête à offrir des parfums, Dieu envoie cet homme pour parler. Il parle. Jéroboam cherche à s'attaquer à lui. Il reste coincé, sa main reste coincée. Et il implore l'homme de Dieu. Et l'homme de Dieu prie. Et il est libéré. Il dit à l'homme de Dieu, « Viens, pour ce que tu as fait, comme je suis roi, viens, je veux te recevoir. » Et cet homme a été ferme. Il a dit non. L'Éternel m'a dit, « Je viens, je fais ce que j'ai à faire et je reprends un autre chemin pour retourner d'où je viens. » L'homme est resté sur l'ordre qu'il a reçu de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Il est écrit un vieux prophète. Donc dans le vieux, là, on peut tout mettre. Hein. Il y a l'expérience, il peut être imposant, voilà, il y a des choses qu'il connaît, qu'il a vécu, quoi. Il a vécu. Et c'est ça qui a impressionné le jeune prophète. Il vient lui dire, mais moi je suis prophète aussi comme toi. Peut-être même plus que toi parce que moi je suis vieux. J'ai connu des choses avec Dieu. Il dit, viens, on va aller ensemble. Malheureusement, il est écrit clairement, il lui mentait. C'est écrit. Et qu'est-ce qui s'est passé après? C'est qu'il a été dévoré par un lion et il a été tué, pardon, mais même pas dévoré parce que son cadavre est resté. Donc si le lion avait vraiment faim, il l'aurait mangé. Pour voir vraiment la punition de Dieu, tout simplement. Parce que le lion le tue et le laisse pour mort. C'est cela. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire que nous avons la révélation par excellence, la parole de Dieu. Mais l'homme cherche toujours ce qui est extraordinaire, ce qui sort de l'ordinaire, ce qui sort du normal. L'homme est impressionné par ça. J'ai reçu. Dieu m'a dit. Le Seigneur m'a montré. Lorsque je venais, le Seigneur, j'ai vu une image. Voilà, ça, l'humain est toujours... on tremble. Et Dieu nous dit non. C'est la parole de Dieu qu'on doit suivre. C'est la parole de Dieu, comme les Juifs de Béret qui vérifiaient. Ils ont compris que l'histoire de salut, ce n'était pas l'histoire de Paul. Non, c'était leur histoire aussi. Comme Paul connaissait le Seigneur, eux aussi voulaient connaître le Seigneur au travers des enseignements de Paul, mais en vérifiant. Et c'est ce que le Seigneur veut aussi pour nous. Que nous puissions avoir ce réflexe-là, de vérifier. On se présente devant une situation, que dit la Bible? Moi, je pense ceci, mais que dit les Écritures? C'est cela. Il y a un proverbe qui dit, je crois, le proverbe 19, je crois, qui dit que le manque d'intelligence, de science, n'est bon pour personne. Et ce passage se lie un peu à Osée 4:6 qui dit que mon peuple périt parce qu'il a rejeté la connaissance. Puisqu'il a rejeté la connaissance, alors il périt. En quelque sorte, puisqu'il a rejeté la parole de Dieu, il a refusé de suivre la parole telle qu'elle est écrite. Il a voulu une parole, mais voilà, avec de l'assaisonnement. Il dit à cause de cela, la fin c'est quoi? Ça sera la mort. Ça sera la mort. Et ça n'a pas commencé aujourd'hui, ça a commencé avec Adam dans le jardin. Où le diable arrive, il dit, Dieu a-t-il dit? Alors que Dieu a dit fermement, il a dit, vous mangez, vous mourrez. Il vient, il dit, Dieu a-t-il dit? Il sème le doute. Au lieu de rester sur ce que Dieu a dit, bon, Dieu a-t-il dit? Alors là, on se dit, mais est-ce que c'est vraiment ça qu'il avait dit? Et finalement, ils se sont fait avoir et la mort a frappé l'homme. Et le péché est entré sur la terre. C'est cela. Et le diable n'a pas changé. Comme on a vu mardi, que son objectif, c'est toujours d'atteindre notre foi. Son objectif, c'est toujours d'atteindre la parole de Dieu, de transformer la parole de Dieu, de nous amener dans la distraction, comme l'exemple que j'ai donné hier. C'est la distraction. C'est la distraction. Le Seigneur veut que nous puissions nous attacher à la parole. Aujourd'hui, prenons conscience que c'est notre responsabilité. devant le Seigneur, il nous dira, comme ce chant dit, « Qu'as-tu fait de ma parole ? Qu'as-tu fait de ma parole ?» On dira, « Mais Seigneur, mais oui, mais je... » Non, il n'y aura pas d'explication. Il dira, « Non, tu avais la parole. » On se rappelle de l'histoire dans Luc 16. L'homme riche et Lazare, il dit, « Mais non, mais... » Il dit, « Non. Les autres, ils ont la parole de Dieu. Ils n'ont qu'à suivre. » Voilà. Ce n'est pas un homme qui va venir parce que malgré qu'il est dans le séjour de mort, pour lui, il se dit, non, que quelqu'un vienne de l'au-delà, c'est extraordinaire. Voilà comment l'homme fonctionne. La parole, en quelque sorte, c'est trop simple, c'est trop naturel. Il faut qu'il y ait quelque chose de surnaturel. Évidemment, aujourd'hui, c'est ce qui se passe. Les gens, à force de chercher le surnaturel, on voit des bêtises sur Internet, des gens qui mangent de l'herbe. Alors, rien qu'avec le bon sens, on se dit, mais quel est l'objectif pour un prédicateur de faire manger de l'herbe aux gens? Je n'ai jamais compris le rapport. De faire manger de l'herbe aux gens. C'est pour montrer quoi? Il a de la puissance, il est extraordinaire. Voilà. Mais rien qu'avec le bon sens, mais lorsque on n'est pas attaché à la parole de Dieu, eh ben, petit à petit, on va se retrouver avec quelqu'un qui va dire des choses qui semblent correctes, jusqu'au jour où, petit à petit, comme c'est écrit dans Deutéronome 13, il va te dire, bon, maintenant faisons ceci. Maintenant, rentrons dans tel compromis. Le Seigneur nous dit non. Veillons sur notre salut. Veillons sur notre salut. Nous lisons Galates au chapitre 1er. Ça, c'est l'apôtre Paul lui-même qui parle. Galates, chapitre 1er. Galates chapitre 1er, à partir du verset 6 au verset 10. Galates 1, 6, 10. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Nous l'avons dit précédemment, et je le répète à cette heure, si quelqu'un vous annonce un autre évangile que celui que vous avez reçu, qu'il soit anathème. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Amen. Voilà ce que dit l'apôtre Paul. Il dit, si moi, je vous prêche aujourd'hui et que demain, je change ce que je dis, eh ben, ne m'écoutez plus. Et il va même plus loin. Il dit, cette personne-là, donc, en parlant de lui aussi, il dit, voilà, considérez-moi comme une personne maudite. Considérez-moi comme une personne maudite. Si je vous prêche aujourd'hui et que demain, je dis le contraire de ce que j'ai fait ou j'ai prêché, alors considérez-moi comme un homme maudit. Voilà. Mais quel est l'objectif de Paul en disant ça? Et nous l'avons lu au verset 6. Il dit, c'est parce que le peuple de Galate s'est détourné de la parole de Dieu, de l'évangile de Christ. Le peuple de Dieu s'est détourné de la simplicité de l'évangile telle qu'elle a été présentée. Ils sont rentrés dans des théories compliquées, bizarres. Au chapitre 3, il dit, mais Galates, mais hommes dépourvus de sens, qui vous a ensorcelé? Qui vous a ensorcelé? C'est cela. Et le but de Paul, c'est de dire, la parole de Dieu telle qu'elle est, elle est présentée, eh ben, elle ne peut pas changer. Alors nous, utilisons-la comme l'arme de Dieu pour résister. Utilisons la parole de Dieu. Comme le Seigneur Jésus-Christ devant Satan dans le désert. C'est la parole de Dieu qu'il a utilisée. Il est écrit. C'est ça. C'est cela. Et il dit, même si moi-même, j'ai fait des miracles, j'ai même ressuscité des morts, et je parle, je dis le contraire, alors considérez-moi comme un homme maudit. C'est cela. Et l'objectif, c'est d'emmener le peuple à réaliser que le salut que nous avons reçu, c'est précieux. Voilà pourquoi l'apôtre Paul parle à Timothée, il dit, veille sur toi-même mon enfant, veille sur toi, veille sur ton enseignement aussi. Persévère dans ces choses, dans tout ce que tu as appris de moi, persévère, car qu'est-ce qui se passera? En faisant ainsi, tu te sauveras toi-même d'abord, mais tu sauveras aussi ceux que tu écoutes, ceux qui t'écoutent, pardon. Il dit, veille sur toi-même. Et veille sur ton enseignement, les deux sont liés. C'est cela. Nous avons une responsabilité. Le salut que Dieu nous a donné, c'est le cadeau de Dieu. Mais notre responsabilité, c'est de lire la parole, de marcher par la parole, de méditer la parole. Lorsque nous sommes devant des situations, répondre à ces situations par la parole. Parce que le diable, de même qu'il a fait avec notre Seigneur, il va vouloir faire aussi avec nous. Mais il va s'attaquer à la parole. Il va vouloir nous amener dans l'extraordinaire. Il a des grandes choses à te dire. Je dis vraiment là, il s'est trahi lui-même, quoi. Il s'est trahi lui-même. Mais c'est ça, le diable. Peut-être en lisant, il a des grandes choses. Les gens se disent, ah là, je ne vais pas dormir de la nuit, quoi. Là, il faut que je sache ce qu'il a à me dire. Mais non. Nous avons la parole de Dieu qui est là. Il y a des gens à force d'écouter aujourd'hui, ils sont malades. Ils sont malades à force d'écouter à gauche, à droite. Ils ont écouté même des malédictions contre eux, ils sont malades aujourd'hui. Pasteur, qu'est-ce que je dois faire? Frère, qu'est-ce que je dois faire? On m'a dit ça, on m'a dit. Mais oui, mais que dit la parole de Dieu? Que dit la parole? Le but du diable, atteindre la foi. Et la foi est atteinte, c'est fini. Tu ne penses même plus à prier, tu commences à te lamenter. Là, le diable a atteint son objectif. Le diable a atteint son objectif. Soyons comme les récabites qui sont restés fermes. Devant Jérémie, ils ont regardé Jérémie, ils ont dit non. Nous, on a reçu des ordonnances. On va suivre ce qu'on a reçu. Et Dieu dit, nous, les enfants, ces enfants, eh ben, on doit être encore plus que les récabites parce que les récabites étaient des choses liées à la terre, à leur marche de tous les jours sur la terre. Et nous, ce que nous avons, c'est beaucoup plus grand. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit que Dieu ouvre nos yeux afin que nous puissions voir l'héritage que Dieu nous réserve. Que Dieu nous réserve. C'est le ciel. C'est de vivre malgré le manque, mais vivre dans la paix et dans la joie. C'est ça. Mais le diable va venir pour dire non. Il est où? Dieu est où? Regarde comment tu vis. Regarde comment tu galères. Regarde un tel. Comment il a fait? Pose-lui la question. Mais le Seigneur nous dit, restons sur la parole. Restons sur la parole. C'est en utilisant la parole que le diable va fuir comme il a fui devant Jésus. Il a fui. Il est écrit dans Luc 4, 13, le diable se retira jusqu'à un moment favorable. Donc ce n'est pas parce qu'il est parti comme on a vu le mardi. Parfois, on peut connaître des épreuves. Et le Seigneur nous soutient, on sort de ces épreuves. On se dit, bon, c'est fini. Et c'est généralement à ce moment-là qu'on reste vulnérable. Et là, le diable revient. On a pris l'exemple d'Élie, qui, après avoir vaincu les prophètes de Baal, il s'est dit, bon, c'est fini. Mais voilà que lui qui a vaincu les prophètes de Baal se retrouve maintenant avec Jézabel qui le pourchasse et il fuit. Et cet exemple nous montre qu'on ne peut pas présager des victoires futures en pensant aux victoires antérieures. Non, c'est spirituel. Je peux prier pour une personne, la personne est guérie, mais derrière, avoir un combat et perdre ce combat-là. Pourtant, on se dit, oh, une personne est guérie. Une personne est guérie, mais vraiment, Dieu m'a soutenu, je suis arrivé à un niveau. Non. Non. Tous les jours, on a besoin du Seigneur. Et comment? En priant le Seigneur. Mais en méditant la parole de Dieu, en confessant la parole de Dieu, en disant, Seigneur, même si hier nous avons eu des victoires, aujourd'hui j'ai encore besoin de toi. Voilà. Aujourd'hui j'ai encore besoin de ton aide. Aujourd'hui j'ai encore besoin de ta parole. Que dit ta parole, Seigneur? C'est ça. Nous avons une responsabilité par rapport au salut que Dieu nous a donné. Il n'y aura pas d'excuse. On ne dira pas c'est la faute d'un tel, non. Comme Adam a voulu faire, Dieu a dit à Adam, non, ça ne marche pas comme ça. Tu as eu une responsabilité. Et Dieu nous a donné aussi cette responsabilité. Nous sommes responsables, comme les récabites. Nous avons reçu le salut de Dieu. C'est à nous maintenant de veiller sur le salut. C'est à nous maintenant d'utiliser la parole de Dieu. Il y aura des attaques, il y aura des propositions du diable, il y aura des séductions qui vont venir. Mais nous avons la parole de Dieu pour discerner. Nous avons l'Esprit de Dieu pour éprouver les esprits, comme la Bible dit. Nous avons toutes ces armes que Dieu nous a données. Et le but, c'est pour nous maintenir dans le salut. Et le deuxième point, le premier point que j'ai dit, c'est considérer la parole comme étant au-dessus de tout. C'est la parole qui est au-dessus de tout. Et le deuxième point, c'est, comme il est écrit dans 1 Corinthiens 15, 33, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies, corrompent les bonnes mœurs. Ça, c'est un point très important aussi. L'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas. Ça veut dire qu'on peut se tromper. On peut penser que je suis suffisamment chrétien pour résister, avoir un entourage mauvais. On dit, moi, je vais résister. Non. Je ne dis pas aujourd'hui qu'il faille casser toutes les relations qu'on a avec les païens. Ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Mais avec l'Esprit de Dieu, avec la sincérité dans notre cœur, on peut autour de nous voir quelles sont les relations qui m'empêchent d'avancer avec Dieu autour de moi. On le sait. On le sait. Le diable va utiliser la parole, mais il va utiliser aussi les gens qui sont autour de nous. Il va les utiliser. Voilà pourquoi Jésus, lorsqu'il marchait avec ses disciples, lorsqu'il est écrit que sa mère vient pour le chercher, on dit « Maître, ta mère, tes frères te cherchent, te demandent. » Il dit « Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui pratiquent ma parole. » Jésus veut nous montrer que ce qui est important, c'est d'avoir une relation basée sur la parole de Dieu avec tous ceux qui sont autour de nous. Il considère que les frères, c'est ceux avec qui on a la même vie, la vie du Seigneur. C'est ça nos frères et nos sœurs. Puisque ce sont ceux-là qu'on va retrouver au ciel. Les autres, c'est sur la terre. Donc lorsqu'on ne sera plus sur la terre, il n'y aura plus rien, c'est fini. Mais le Seigneur veut aussi que dans les relations qu'on a autour de nous, que ce soit des relations qui sont basées sur la parole de Dieu. Que ce soit des relations basées sur la parole de Dieu. Non pas sur des affinités. Non pas sur des copinages, puisqu'on s'entend bien. Un jour ou l'autre. Le bon exemple, c'est l'exemple d'Adam. La Bible dit, lorsque Dieu a créé, tout était parfait, tout était bon. Dieu a donné l'ordre clair à l'homme, en disant, tu ne mangeras pas l'arbre de ce fruit. Tout était clair. Il endort Adam, il crée Ève. L'ordre était donné. Mais voilà que Adam se fait avoir par Ève. Si Adam était resté sur ce qui est écrit, lorsque Ève lui fait la proposition, il n'aurait pas péché contre Dieu. Si Adam était resté sur ce que Dieu avait dit, il aurait répondu à Ève en disant, non, moi, le Seigneur m'a dit, je ne touche pas. C'est pour nous dire que par affinité, parfois beaucoup se font avoir. Beaucoup se font avoir. Puisqu'on aime, puisque c'est une personne que j'aime, puisque c'est une personne que j'apprécie, oui. Mais faisons les choses par rapport à ce que dit la Bible. L'ordre a été clair pour Adam. L'ordre était clair. Et la séduction d'Ève et du serpent, parce que c'est le serpent qui était derrière, le diable qui était derrière, qui tirait les ficelles, est venu pour contredire ce que Dieu a dit. Et nous aussi, veillons là-dessus. Veillons sur les relations qui sont autour de nous. Veillons là-dessus. Que nos relations soient basées sur la parole de Dieu. Qu'à partir d'aujourd'hui, les relations avec les personnes qu'on a, qu'elles soient basées sur la parole. Il y a des personnes qui... Tu entends qu'on a critiqué tel et tel là. On a critiqué à gauche, tel était là. Donc, c'est comme si leur présence attire les critiques. Mais une personne qui prend plaisir à critiquer les autres, quand tu es toujours là, c'est qu'il te considère comme... Donc, tu as l'oreille attentive, réceptive à cela. Tu as l'oreille réceptive à cela. Et comme l'apôtre Paul dit, ne vous y trompez pas. Les mauvaises comparaisons, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les critiques qu'on distille toujours contre un tel, A, B, C, D, un jour, finalement, tu vas... Les critiques que tu entends sur tel ou tel ou tel, finalement, tu vas les vivre comme étant vraies, finalement. Même si c'était des mensonges, mais à force d'entendre, eh ben, voilà, tu vas les considérer comme étant vraies. Parfois même ton attitude va changer vis-à-vis de la personne parce qu'on t'a dit ça, on t'a dit ci. Alors, voyons là-dessus. Lorsque quelqu'un vient critiquer, ayons le courage d'aller jusqu'au bout. On dit, bon, j'ai entendu ce que tu as à me dire. Maintenant, on va voir la personne. Voilà. Oh non, je te dis ça, mais ne dis à personne. Hein. Ne dis... Non. Ça, c'est être complice du mal. Et en étant complice du mal devant Dieu, on sera aussi coupable. Dans la justice, on voit parfois des personnes qui sont témoins d'un crime. Eh bien, ils seront aussi condamnés. Peut-être pas à la même peine, mais ils seront condamnés. Ils seront condamnés. C'est cela. Et faisons attention. Ne serons pas complices dans le mal, dans la bêtise. Parce qu'en faisant ainsi, un jour ou l'autre, ça va nous atteindre. Comme ça a atteint Adam, ça va nous atteindre aussi. Nous lisons un passage. Luc, chapitre 23. Pour finir, Luc, chapitre 23. À partir du verset 39 jusqu'au verset 43. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, « N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre le reprenait et disait, « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit à Jésus, « Souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit, « Je te le dis, en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. » Alors, quel est le rapport de ce verset avec le thème? C'est responsable, soyons responsables du salut que Dieu nous a donné. C'est que les deux ont été condamnés pour les bêtises qu'ils ont commises. Donc, ils ont été complices. Mais voilà qui Jésus à la croix, il y en a un qui dit, qui se moque de Jésus. Si tu es le Christ, mais sauve-toi et sauve-nous aussi. Et l'autre le reprend en disant, mais crains quand même Dieu. Nous, ce que nous avons, c'est parce que nous avons mérité cela. Mais lui, il n'a rien fait de mal. Il ne s'arrête pas là, il dit à Jésus, Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviendras dans le terrain. C'est pour dire quoi? C'est que le deuxième a pris conscience. Il a été responsable. Il y a des gens, comme je disais tout à l'heure, qui sont solidaires jusque dans la bêtise. Je vois des jeunes au travail. Quelqu'un va faire le vol par effraction, va rentrer dans les maisons. Il y a même dernièrement, il y a un, ils ont frappé quelqu'un carrément à mort. Et son ami qui ne fugue jamais, qui est gentil, mais par solidarité, pour ne pas perdre la face, parce que l'autre lui dit, si tu pars, si tu fuis, ils ont leur terme qu'ils utilisent, un gros mot pour dire un poltron. Mais en plus, je veux m'occuper de toi aussi. 17 ans. Ils ont tapé une personne âgée, presque à mort. Malheureusement ou heureusement, il y avait des caméras, donc tout a été vu. Voilà. Et aujourd'hui, il regrette. Il dit, ah, j'aurais pas... Eh bien, voilà. Il y a des gens qui sont solidaires jusque dans la bêtise, jusqu'au bout. Mais là, le deuxième s'est dit non. Là, j'arrête. Je veux devenir responsable. Là, c'est une question de salut. On a été amis. On a fait des 400 coups ensemble. On a fait des bêtises ensemble. Maintenant, moi, je me ressaisis. Peu importe ce que toi, tu vas penser de moi. Seigneur, souviens-toi de moi lorsque tu reviens dans ton règne. Jésus lui dit, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. C'est cela. Le deuxième a été responsable. Il a pris conscience que là, c'était la question du salut. Il n'y a pas cousin, il n'y a pas frère, il n'y a pas oncle, il n'y a pas... Non. Non. Il n'y a pas tout ça. Il a pris conscience, il a pris la décision lui-même en disant, bon, maintenant, j'arrête. C'est cela. Malheureusement, beaucoup sont solidaires dans le mensonge jusqu'au bout. Parfois, on vous attrape même, mais comme souvent les gardes à vue, c'est chacun de son côté. On vous prêche le faux pour avoir le vrai, on vous contredit. Les policiers, ils sont très calmes. Hein. Ces jeunes-là dont je parle, ils sont restés en garde à vue, je crois, 4 jours. Alors que là, c'est vraiment pour le terrorisme. Ils sont sortis de là exténués, fatigués. Et l'autre qui est souvent gentil, qui a peur, ben, il a tout balancé finalement, il a tout balancé. Il a tout balancé. Il dit plus jamais, c'est fini. Si on me pousse encore à aller faire des bêtises, c'est fini. J'ai compris ma leçon. Voilà. J'espère qu'il a compris sa leçon. Mais c'est pour nous dire que parfois les compagnies peuvent nous amener à faire des choses, mais cet homme, le deuxième, a dit stop. Il a été responsable. Il a dit non, ça c'est l'histoire de ma vie à moi. Et on voit aussi l'amour de Dieu jusqu'à la fin. Dieu est prêt à sauver. C'est cela. Jusqu'à la fin. Soyons responsables. Veillons sur le salut que Dieu nous a donné. Personne ne dira, c'est à cause d'un tel. Seigneur, c'est parce qu'on m'avait dit. Seigneur, c'est parce que j'avais entendu. Non. Ça ne marchera pas devant Dieu. Ça ne marchera pas. Il dira comme il a dit à cet homme riche. Dans Luc 16, il dira, non, tu avais les Écritures. Tu n'avais qu'à suivre les Écritures. Seigneur, c'est elle qui m'avait prophétisé, il m'a eu. Ah oui, c'est maintenant que tu te rends compte qu'il t'a eu. Soyons responsables. Veillons sur le salut que Dieu nous a donné. Comment ? Par la parole. En examinant. Si on a des doutes, posons des questions à des personnes qui sont plus matures, qui peuvent nous éclairer. Prions le Seigneur, il va nous éclairer par son esprit. Lorsqu'il y a des pièges, le Seigneur va nous parler. Et deuxièmement, c'est en veillant sur notre entourage. En veillant sur notre entourage. Ce n'est pas parce que ton père t'a dit de faire le mal que, bon, pour obéir, bon, j'ai quand même... Non. Ça même devant la justice des hommes, ça ne passe pas. Tu seras condamné. Et devant Dieu, c'est la même. Alors le Seigneur veut que nous puissions avoir l'attitude des Rechabites qui sont restés fidèles à la parole qu'ils ont entendue. Et le Seigneur nous dit, nous qui sommes ses enfants, nous devons faire encore plus. Nous devons faire encore plus parce que nous avons son esprit. Parce que les promesses qu'il nous a données sont des promesses qui sont tellement grandes. C'est la vie éternelle avec lui. Alors ne nous faisons pas avoir par le diable en te disant, j'ai des très 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 grandes choses à te dire. Non. Tu as des choses, garde ça pour toi. Prophétise pour toi-même. Moi, j'ai la parole de Dieu, cela me suffit. Amen. Suivons l'exemple de ce deuxième brigand qui, à un moment, a faussé compagnie à son ami pour dire non, là, c'est fini. Je deviens responsable. J'ai été irresponsable. Maintenant, je me prends en charge parce que c'est mon salut. Prions au nom de Jésus. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, Seigneur, pour Seigneur, ta parole qui m'a encouragé, moi le premier, Seigneur. Seigneur, merci parce que il est écrit, Seigneur, que c'est ta parole qui éclaire, Seigneur. Elle donne l'intelligence, Seigneur, au simple, Seigneur, que nous sommes, Seigneur. Ta parole est une lampe à nos pieds, Seigneur. Une lumière qui éclaire nos sentiers. Et nous bénissons ton nom, Seigneur. Nous prions pour que tu nous aides, Seigneur, à serrer ta parole dans nos cœurs, Seigneur. À la mettre en pratique. Au nom de Jésus. Aide-nous, Seigneur, à serrer ta parole dans nos cœurs afin de ne pas pécher contre toi. Seigneur, il est écrit, Seigneur, dans 2 Timothée 4, Seigneur, 2 Timothée 3 et 4, Seigneur, que dans les derniers temps, les hommes vont abandonner ta parole pour chercher, Seigneur, de fausses doctrines, Seigneur. Seigneur, il est écrit dans Matthieu 24, c'est toi-même qui dis, Jésus, que lorsque l'iniquité sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Seigneur, nous prions pour que tu nous préserves de cela. Si c'est écrit, Seigneur, c'est parce que ces choses vont arriver sur la terre, dans ce monde, et nous le voyons autour de nous. Nous prions, Seigneur, pour que nous puissions toujours être attachés à ta parole, Seigneur. Afin que lorsque ces fausses prophéties, afin que lorsque ces séductions du diable viendront, Seigneur, que nous puissions résister. Au nom de Jésus, merci pour ta parole. Merci de nous faire prendre conscience, Seigneur, que le salut, c'est toi qui nous le donnes. Et tu garantis, Seigneur, de nous maintenir dans ce salut. Mais tu nous rappelles aussi, Seigneur, que nous aussi, nous avons notre responsabilité. Seigneur, nous prions pour que tu nous aides à prendre cette responsabilité pleinement. Nous prions pour que tu nous éclaires par rapport à notre entourage, Seigneur. Nous prions pour que tu nous éclaires, que tu nous aides. Que les relations que nous avons avec notre entourage soient des relations basées sur ta parole, Seigneur. Au nom de Jésus. Seigneur, aide-nous, Seigneur, à ne pas être complices du mal, Seigneur, parce que ce serait sortir de ta volonté. Nous prions pour que tu nous aides à être comme les Récabites, à être comme ce deuxième brigand qui a pris conscience, Seigneur, du salut de sa responsabilité à lui-même. Et il a décidé de te suivre, Seigneur. Seigneur, tu nous montres aussi par cet exemple que tu es toujours disponible, Seigneur, lorsque nous avons mal fait. Nous pouvons nous repentir, Seigneur.